7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
Et voici le billet économique avec vous, Marie Viennot, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
On part avec vous ce matin aux États-Unis où le nombre de demandeurs d'emploi poursuit sa hausse vertigineuse. 6 200 000 nouveaux inscrits en une semaine, soit 17 millions en tout en moins d'un mois.
Oui, et ce n'est pas près de finir, Guillaume, car les chiffres officiels publiés hier recensent le nombre de nouveaux inscrits la semaine allant du 29 mars au 4 avril. Ils ne prennent donc pas en compte la semaine qui vient juste de s'écouler. L'année dernière, à la même période, on était sur 196 000 nouveaux inscrits au chômage. 6 200 000, c'est donc 30 fois plus, 30 fois plus. En trois semaines, l'économie américaine a détruit plus d'emplois qu'en 18 mois lors de la crise de 2008. À l'époque, le taux de chômage était monté jusqu'à 25%. De nombreux économistes américains envisagent dorénavant un taux de chômage à 30% d'ici la fin juin, ce qui voudrait dire un Américain sur trois au chômage.
Or, les institutions américaines ne sont pas outillées, Marie Viennot, pour passer en si peu de temps du plein emploi au chômage de masse.
Oui, alors il y a aux États-Unis un débat sur la sous-estimation statistique du nombre de chômeurs. Il n'y avait pas réellement le plein emploi avant cette crise, mais c'était néanmoins le paradigme pour l'accès aux droits, notamment à une assurance santé. Perdre son emploi, c'est aussi perdre une partie de sa couverture maladie aux États-Unis. Alors on peut être assuré éventuellement par un proche, mais si on ne peut pas, vous imaginez l'angoisse en ce moment avec le coronavirus. Or, le plan américain à 2200 milliards de dollars qui a été promulgué la semaine dernière, n'a rien prévu à ce sujet. Il a en revanche étendu, et c'est une très grande avancée, l'assurance chômage aux travailleurs de ce qu'on appelle la gig economy, les freelances, les auto-entrepreneurs. Il a aussi prévu d'ajouter 600 dollars par semaine jusqu'en juillet au montant versé par les États au titre de l'assurance chômage. Alors sur le papier, c'est bien. Le problème, c'est que pour toucher le chômage et son complément fédéral, il faut être inscrit au chômage. Or, c'est devenu complètement mission impossible. Un, parce qu'il y a un influx considérable de demandes en même temps. Deux, parce que les services chargés de gérer le chômage dans les États ont été sous-dotés depuis des années, notamment sur le plan informatique. Alors vous avez en ce moment le New Jersey, le Kansas et le Connecticut qui lancent des wanted, appels, avis de recherche, pour des informaticiens capables de programmer en COBOL, un langage informatique vieux de 40 ans, car c'est encore leur système que leur site internet n'a pas supporté l'explosion du nombre de demandes et qu'il est hors service. Enfin, certains États avaient volontairement complexifié les formalités à remplir ces dernières années pour décourager les gens de s'inscrire au chômage, ce qui n'arrange rien en ce moment. Alors désespérés, des Américains font la queue pendant des heures devant les centres d'emploi, en dépit du confinement. D'autres abandonnent et lancent des appels aux dons sur les réseaux sociaux. La situation est particulièrement grave en Floride, l'un des États les moins généreux sur l'assurance chômage. Je vous renvoie à la page du billet économique si vous voulez prendre la mesure de cette désorganisation et de la détresse qui en découle en images.
Or, pour le moment, Marie, les marchés financiers américains n'accusent pas le coup, bien au contraire d'ailleurs.
Oui, tous les indices boursiers ont fini la journée dans le vert hier. Le S&P 500, l'équivalent du CAC 40, mais pour les 500 plus grandes entreprises américaines, a même réalisé sa meilleure performance hebdomadaire depuis 1974. Alors pourquoi? Parce que les mauvaises nouvelles sociales n'ont pas fait le poids face aux annonces de la Fed, la banque centrale américaine, qui a annoncé au même moment hier un nouveau plan d'achat de titres de 2300 milliards de nouveaux crédits. Alors que cela ait si bien marché interroge même des analystes, car la crise économique est à venir et qu'il faudra plusieurs années pour récupérer. À court terme, cela prouve une fois de plus que la bourse n'est pas un thermomètre de la santé économique et de façon plus structurelle, cela montre l'inégalité criante entre Wall Street et Main Street, c'est-à-dire les gens dans l'accès aux aides publiques américaines qui sont pourtant massives. Pour Wall Street, le robinet du crédit de la Fed s'ouvre instantanément. Pour Main Street, il faut faire la queue avant que les milliards de dollars ne ruissellent. Alors ce n'est pas une volonté politique, car le pouvoir américain n'a aucun intérêt à laisser la crise sociale s'installer, aussi bien pour des raisons économiques qu'électorales, mais c'est une question d'organisation des institutions, ce qui est beaucoup plus grave parce que cela prendra beaucoup plus de temps à faire évoluer.
Merci beaucoup Marie Viennot pour ce billet économique.